Canale Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan pour la troisième saison. Au micro de cet épisode, Giuliano De Pasquale, Kevin Coe et Cédric Canale.
Ciao tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Canale Inter. Et aujourd'hui, évidemment, je suis accompagné, comme d'habitude, de mon ami Cédric Canale. Salut Cédric.
Salut Giuliano, bonjour à tous.
Et je suis aussi accompagné de Kevin Coe, qui vient régulièrement. Salut Kevin.
Salut Giuliano et salut à tous.
Alors, les amis, ce soir, non, on n'est pas ce soir, mais aujourd'hui, on va parler de ce match déjà, de ce mercredi contre l'Atalanta, gagné 4-0. On va revenir sur ce début d'année qui est parfait pour l'Inter, avec que des victoires, 11 victoires de suite. Et ensuite, on va terminer sur un peu voir le calendrier, ce qui arrive et ce qu'on peut espérer aussi pour la suite, parce qu'il y a un match aussi très important qui va bientôt arriver, le match retour contre l'Atlético. Et donc, on en parlera à la fin. Alors moi, j'ai envie de vous demander simplement, par rapport au match d'hier, Cédric, juste par rapport au fait que tu étais au stade, comment tu as vécu cette victoire là-bas? Quelle était un peu l'ambiance et sur le terrain, voilà, avec cette vue globale, qu'est-ce que ça disait?
Non, mais c'est dans la lignée des précédentes rencontres où on sent une équipe de l'Inter qui, même lorsqu'elle est dans un temps faible, même lorsqu'elle est en difficulté, arrive à s'en sortir. Parce que là, le premier quart d'heure, il faut avouer que l'Atalanta, contrairement à ce qu'elle a montré 3 jours plus tôt contre l'AC Milan, c'était une équipe de l'Atalanta qui pressait haut, qui a tenté de gêner la relance, qui était sur Aslani tout de suite pour tenter de le perturber. Il y a eu ce but, refusé donc finalement pour une main de Milanchuk. Main qui est
ouais,
réel.
C'est assez, ouais, mais c'était chaud. Hein.
Bon, oui, voilà, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. C'est vrai que depuis le stade, on ne comprend pas trop au début ce qui se passe, pourquoi ça dure aussi longtemps et qu'est-ce qu'il a vu. Enfin, c'est vrai, ça a mis un petit moment de flottement. Mais voilà, passer ce premier quart d'heure avec de la réussite aussi, mine de rien. L'Inter derrière, c'est le rouleau compresseur qu'on voit depuis plusieurs semaines désormais, qui surtout est devenu très cynique, qui arrive sur la première, deuxième occasion marquée tout de suite. Puis ensuite, lorsque ça part, enfin voilà, avec l'aide du stade encore plus, parce que même si la Curva Nord a été sanctionnée après le match contre la Juve et n'a plus le droit au drapeau, n'a plus le droit au tambour et au mégaphone, malgré tout, il y a toujours cette ambiance très très chaude. C'est 70 000 personnes et voilà, ensuite, ça a déroulé, on l'a tous vu. C'est un match où 4-0 est plutôt logique, puisqu'il y a une transversale de Lautaro, il y a Darmian qui est proche du doublé en première période. Voilà, l'Atalanta a coulé. Et d'ailleurs, Gasperini, à l'heure de jeu, a fait 4 changements pour déjà penser à Bologne samedi. Donc voilà, c'est toi, Kevin, ce que tu en as pensé. Mais ça devient, je ne vais pas dire qu'on s'habitue, mais depuis quelques semaines, voilà, c'était le 4e match d'affilée à 4 buts, ce qui est la première fois dans l'histoire de l'Inter depuis 1929. Enfin voilà, il y a un petit peu tout le record qui tombe et ça devient un petit peu la normalité.
Ouais, écoute, je reste sur le premier point. Le plus important, c'est qu'il y a quand même, à force d'avoir créé cette dynamique, tu vas un peu quand même attirer le positif, parce que comme tu dis, le premier quart d'heure, bah, si l'arbitre légitimement prend une décision différente, tu peux aussi concéder un but, hein, et c'est un autre match. Il faut rester réaliste, objectif, mais ça change pas, je suis d'accord avec toi, ça change pas l'excellente période qu'on est en train de vivre depuis le début de saison, et puis globalement depuis un long moment aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est depuis le début de la, quand je dis début de saison, depuis le début d'année, pardon, mais globalement, depuis le début de la saison, il y a quand même une certaine prise de conscience qui est différente. On en avait parlé dans nos podcasts précédents. La mécanique, elle est bien huilée. Les automatismes, tu en as gardé beaucoup de l'année dernière, même si c'est vrai que devant, il y a eu le changement avec Marcus Thuram, dont tout le monde n'était pas convaincu au début, nous les premiers, hein, on était là, Arnautovic, Marcus Thuram, on n'a plus Lukaku. Donc voilà, entre nouveauté et ce qui a pu être gardé l'année dernière de la part de Simone Inzaghi, je pense que bah, déjà, il faut lui dire bravo, parce que c'est vrai qu'on lui a quand même beaucoup accablé certaines choses, même dans ses choix, après on en parlera avec Giuliano, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu as presque deux équipes. On a eu aussi un moment où on a eu quelques blessés, parce qu'il y a quelques semaines de ça, on s'est quand même présenté avec pas mal de joueurs blessés, mais ça ne change rien à la physionomie de l'équipe. C'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe qui joue, tu as la sensation qu'ils se connaissent, ils savent exactement quel est le plan, l'organisation, la mentalité, elle est solide et indépendamment des temps forts et des temps faibles pendant le match, bah ça va de l'avant. J'ai bien aimé l'expression rouleau compresseur. Voilà. Par rapport au match de Madrid, je pense que le seul petit regret, c'est que tu vas te présenter là-bas avec un petit but d'écart. Tu aurais pu largement mériter d'en avoir au moins deux, peut-être plus, parce que bon, ça reste l'Atlético Madrid, mais sur le contenu du match, tu pouvais, t'as eu les occasions pour faire mieux. Mais voilà, écoute, déjà c'est bien. Sur le championnat, on a creusé l'écart, on est à 12 points d'avance. Il reste 12 journées. On a un calendrier plutôt favorable. Donc à nous de bien faire les choses pour vivre une fin de saison palpitante, que ce soit en Champions League et en Serie A. Après, voilà, c'est pas de ça Inter à Mala. On espère qu'il n'y aura pas de fausses surprises. Mais avec l'Inter, on n'est jamais sûr de rien.
C'est vrai qu'au niveau des blessés, ça a été bien géré, hein, j'ai l'impression, jusque maintenant. À un moment, Lautaro aussi il était blessé 2 semaines, il me semble, quelque chose comme ça. Et l'Inter a assuré entre-temps. Ici, Thuram est blessé. Arnautovic, je suis le premier à taper dessus. Contre l'Atalanta, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, même s'il n'a pas marqué. J'ai trouvé qu'il a... Il a bien distribué des ballons, il les a bien déviés pour Lautaro sur les côtés. Bon, si déjà il fait ça, c'est très bien. Après, le reste de l'équipe fait le reste. Et après, oui, bon, Darmian, son premier but. Di Marco, c'est déjà son 4e but cette saison. Je trouve ça génial. Et Lautaro, qui est déjà un chiffre de meilleur buteur de la saison. 23 buts. Enfin, je sais plus c'était quoi les meilleurs buteurs, les capocannonniers des dernières saisons, mais je pense que c'est déjà arrivé qu'il y en ait un à seulement 23 buts, non?
Oui, effectivement, mais je crois que Icardi, une saison, avait terminé avec Immobilier, je crois qu'ils étaient à 22, 23, un truc comme ça. Mais
ouais, voilà, c'est ça.
Après, il va avoir du mal à aller chercher le record, c'est quoi, 36, je crois, Higuaín et Immobilier, je crois.
C'est compliqué.
Ouais, ça va être.
Pavard può andare a cross, cerca e trova Lautaro che si gira, finta contro finta, il tiro! Controlli, ti giri e la metti nell'angolo.
Moi, mon petit chouchou du moment, c'est Fratesi. Fratesi ou Julio Cruz, on ne sait pas. Parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il marque. Donc, c'est vraiment fou.
Ça, c'est un vrai joker plus. Hein. Ça, c'est...
Ouais, c'est fou.
C'est ce qui te change un match aussi, hein, à ce niveau-là. Parce que quand tu rentres avec une telle qualité, chez lui, en fait, c'est un titulaire. Hein. Faut quand même être honnête. Hein. C'est un titulaire qui commence le match sur le banc de touche. Hein. Mais ça, c'est une vraie plus-value.
Qui serait titulaire dans toutes les autres équipes de Serie A, et à l'Inter, non, c'est quand même fou. Ça montre aussi la force de l'effectif.
Justement, Kevin, sur lui, j'inclurais peut-être aussi Dumfries, qui est en train de bien revenir, et qui lui aussi fait très très bonnes entrées. Est-ce que ce ne sont pas des joueurs qui peuvent être encore plus décisifs lorsqu'ils entrent en cours de match par leurs caractéristiques? Parce que Fratesi, c'est un très bon joueur, un très bon milieu de terrain, mais il le disait lui-même dans une interview à la Gazzetta il y a 2 jours, il lui manque encore un petit peu la partie un peu plus défensive construction. Où il disait justement, prendre l'exemple de Barella qui a beaucoup progressé là-dessus. Lui, c'est plus un joueur qui est dans l'incursion, qui se projette et qui donc, lorsque le match est un peu plus ouvert, lorsqu'il y a un peu plus d'espace, un peu plus de fatigue, fait encore plus de différence, non?
Bah écoute, faut gagner en efficacité, oui. Après, tu le sais, hein, vous le savez, faire le métier d'entraîneur, c'est faire des choix. Et je pense que quand tu as quelque chose qui fonctionne, moi je pars de ce premier principe, tu as beau avoir d'autres joueurs qui sont tout aussi talentueux, mais... Quand tu trouves la bonne recette, en général, tu ne vas pas risquer de changer ou de stravolgere, comme on dit en italien, quelque chose pour faire content un et pas l'autre. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les choses, elles ont été claires et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc là, je ne fais que des hypothèses, mais je m'imagine que quand Fratesi a été pris, il arrive de Sassuolo, l'associé, le club, l'entraîneur, tout le monde a dû lui dire, écoute, t'arrives, tu vas commencer, ça va être une saison d'adaptation, c'est-à-dire que tu vas commencer sur, tu fais la réserve de ceux qu'on a, c'est-à-dire Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, etc. Tu vas faire tes rentrées et tu vas gagner ta place tranquillement parce que tu as les qualités pour. Mais je pense pas qu'il lui ait vendu en disant tu viens, t'es titulaire indiscutable. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça se passe très très bien. Tu le vois que sur le terrain et même au sein du groupe, il y a aucune déclaration qui vole. Maintenant que je dis ça, on va ouvrir la Gazette à demain. Il va s'exprimer. Mais blague à part, non. Le discours, je pense que ça a été bien fait aussi depuis le début. Je pense que les choses ont été bien définies, que ce soit entre qui est titulaire, qui est remplaçant. Et je pense qu'après, dans ses choix, il a démontré à tout le monde que bah tout le monde a sa place, parce que on a souvent pointé du doigt ces changements automatiques À la 60e minute, à la 70e, on sait déjà Dumfries, Darmian, machin, et Carlos Augusto, Fratesi. Mais ça permet aussi de démontrer à ces mêmes joueurs qui sont sur le banc de touche que bah, le coach compte sur eux, qu'ils ont une place importante à jouer dans l'effectif et dans un match, parce que un match, c'est 90 minutes. La première heure, tout peut se passer, mais surtout dans la dernière demi-heure, tu peux être décisif. Donc, c'est là-dessus où il faut faire un joli chapeau à soulever un joli chapeau pour Inzaghi, c'est qu'il a su fédérer tout le monde et tout le monde est en train de ramer dans la même direction.
Et on fait un petit point vite fait sur les blessures. Fratesi, il s'est entraîné donc ce jeudi matin, apparemment sans douleur. Et si ça continue comme ça pour la fin de la semaine, bah, il n'y aurait pas de raison de lui faire passer les tests. Il irait bien. Donc, plus de peur que de mal pour lui, tant mieux. Par contre, Çalhanoğlu, il faudra encore attendre une semaine, si j'ai bien compris. C'est ça, Cédric?
Oui, a priori, ce sera un petit peu juste pour le Genoa, puisque l'Inter joue ce lundi 4 mars. Ensuite, il y aura le samedi 9 mars
Bologne.
Contre Bologne, à Bologne. Sachant qu'enchaîner Gênes et Bologne, c'est quand même deux équipes qui ont pris des points à l'Inter lors de la phase aller. Il y a eu deux matchs nuls. Donc voilà, c'est deux équipes qui, dans le jeu, pourraient poser des problèmes. Et puis oui, Marcus Thuram, il pourrait revenir peut-être sur le banc, peut-être pour le Genoa aussi. Mais effectivement, on est plutôt sur des retours. Et puis Acerbi aussi qui pourrait être aussi sur le banc, sachant que Bastoni sera suspendu contre le Génois, puisqu'il a pris, il a peut-être cherché d'ailleurs le carton jaune pour faire sauter le quota, puisqu'il était à 4 cartons jaunes. Donc voilà, il fallait qu'il prenne le cinquième et comme ça c'est fait. Et il pourra repartir à zéro contre Bologne.
Et donc pour la suite, je regarde un peu donc ce calendrier. On a l'Atlético, donc comme on a dit, qui arrive le 13. C'est un match qu'il faudra vraiment pas louper parce que maintenant. On va essayer de pas non plus porter la poisse, mais 12 points d'avance, ça n'est jamais arrivé qu'une équipe première à cette date-ci de l'année perde le Scudetto avec autant d'avance.
Oh, punaise, il l'a dit. Oh
là là. En coupe, quel
donc,
conseil.
Non, non,
qu'est-ce
non,
qu'on
non,
fait, Kevin, en coupe?
Non,
non, non, que... celle-là, faut la laisser, mais oh là là, il nous a apporté tous les regards de l'univers, là. Attention, pas de Inter à côté
Non, non,
de
non,
vous, là.
Attends. Ce que je veux dire,
Pire
c'est
qu'Oradou.
que.
Pire qu'Oradou, ce que tu as fait, là.
C'est qu'on a une si bonne avance que je pense qu'on peut vraiment essayer d'aller chercher concrètement quelque chose dans la Ligue des Champions si ce n'était pas déjà le cas. Parce que, bon, si on arrive à assurer le championnat, on est quand même une équipe qui a été finaliste de la dernière Ligue des Champions. Donc, est-ce que ce ne serait pas logiquement l'objectif d'essayer de faire aussi mieux?
Bah, je pense qu'inconsciemment, ils sont déjà en train de le faire. Parce que tu le vois, hein, les formations qui sont titulaires, hein, le signal, il est clair. Hein. Il n'y a pas de réduction d'efforts il n'y a pas de turnover sur les compétitions, là. En plus, il te reste à objectif Champions, objectif Scudetto. Donc, voilà, on va pas ménager les efforts. Comme tu dis, par contre, c'est une finale. À Madrid, c'est déjà une première finale. Et ça va être chaud. On sait l'ambiance qu'il y a là-bas. L'avantage, il est que d'un zéro, donc il est moindre. C'est comme s'il y avait 0-0, parce qu'il suffit d'un but et bah, tout est remis, tous les compteurs sont à égalité. Donc voilà, après, pas faire l'erreur de se perdre là-dedans, parce qu'il suffit d'une blessure ou deux, il suffit qu'il y ait, bah, je sais pas, deux matchs nuls, tu relances les autres, tu les galvanises. Ça va vite, hein, le football. Donc en plus, bon là, t'as Bologne, normalement contre Gênes. Ça devrait être un match qui est à portée. Contre Bologne, ça reste un match délicat parce que Bologne, c'est la surprise un peu de la saison. Ils sont galvanisés, objectif Champions, donc ils vont tout donner, bien évidemment. Donc ça, c'est un peu le match piège. Après, si tu réussis à faire les points que tu dois faire contre ces deux-là, tu vas te présenter à Madrid. C'est avant, c'est ça, si je me rappelle bien, tu as Gênes et Bologne et après tu as Madrid, c'est ça?
C'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Si tu te présentes avec au moins toujours 12 points d'avance, il reste plus que 10 journées et tu te présentes à Madrid, c'est clair qu'après tu peux arriver un peu décomplexé. Mais voilà, pas faire l'erreur de sous-estimer le championnat parce qu'on a 12 points d'avance, ça peut vite aller. C'est pas parce que c'est jamais arrivé que ça ne peut pas arriver. Donc, on sait que il y a eu d'autres situations où on était favori aussi, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, on lâche rien. La mentalité du champion, elle est là, c'est qu'il faut rien lâcher jusqu'au bout.
Justement, en tant
Yeah.
qu'entraîneur, comment gérer cette période-là? Est-ce que selon toi, Inzaghi va faire, par exemple, un gros turnover lundi contre le Genoa, remettre Carlos Augusto, remettre Bissek, Je l'ai dit, il n'y aura pas Bastoni. Préserver Çalhanoğlu, même si peut-être il sera de retour, mais laisser Aslani, si Fratesi peut, peut-être faire souffler Mkhitaryan, qui est une chose qui n'est jamais arrivée cette saison encore en Serie A. Il était titulaire à tous les matchs. Mais enfin voilà, Lautaro, pourquoi pas sur le banc et mettre le duo Arnautovic-Sanchez, puisque les deux attaquants sont plutôt en train de donner des signaux positifs dans les contenus. Alexis, qui depuis deux matchs était très bon. Ou non, il faut quand même rester avec toujours 8-9 titulaires et continuer comme ça.
Alors, il y a cette fameuse théorie du jeu. Tu sais, au début de saison, tout le monde disait la Juve ne joue qu'une compétition, donc ils sont favoris parce que les autres, ils jouent les coupes. Après, ça dépend de l'effectif que tu as. Nous, on l'appelle turnover, mais excuse-moi, tu fais le turnover à l'Inter, tu as quand même une équipe de première classe. Hein. Donc, en fait, c'est un turnover sans faire de turnover parce que comme ça ne change pas la qualité. C'est ce qu'on disait au début du podcast. Alors oui, bien sûr, il y aura une légère différence. On va être objectif, hein, on est d'accord, on est réaliste. Mais c'est la force de cette équipe et de ce groupe aussi. C'est que si De Kongen, il a envie d'en mettre 6 ou 7 joueurs qui d'habitude sont pas titulaires, je pense que ça reste quand même à la portée du club, de l'équipe. Hein, et tu devrais quand même dominer le match.
On l'a vu à Lecce. Oui.
Donc après, moi, je suis toujours dans l'optique de dire l'énergie vient en jouant. C'est-à-dire que au niveau automatisme, au niveau mental, au niveau pour éviter de charger la pression aussi sur le 11 titulaire, c'est bien de faire en sorte que tout se passe de manière naturelle. Parce que si tu commences à ne plus les faire jouer pour les préserver, inconsciemment, tu vas les charger de pression pour le match de Madrid. Alors que si ça reste dans un roulement, on enchaîne, ça va de l'avant, bien évidemment, je te gère parce que je ne voudrais pas que tu te blesses. Donc, ça rentre dans une logique de préparation, mais sans créer des conditions mentales, psychologiques élevées. Je pense que c'est là-dessus, je pense, qu'il va miser. Parce que même contre Bologne, tu seras obligé de te présenter avec tes titulaires. Tu ne pourras pas te présenter avec 5-6 joueurs différents. Donc, contre Gênes, pourquoi pas. Contre Bologne, j'y crois pas. Ce sera les 11 titulaires.
Il y a quelque chose vraiment qui est incroyable et qui est partagé par tous les supporters de n'importe quelle génération, c'est que personne n'a jamais vu l'Inter jouer comme ça. Est-ce que toi, Kevin, ça te choque aussi de voir l'Inter qui, par réputation historique, c'est une équipe qui souffre, une équipe qui est inconstante, voilà, qui est jamais à l'aise, qui est jamais tranquille. Et cette saison, on peut regarder l'Inter en se relaxant, j'ai envie de dire, parce que ici, ça fait 4 matchs de suite que l'équipe plante 4 buts. C'est la troisième victoire de suite sur 4-0, la meilleure attaque d'Europe, la meilleure défense d'Europe, le plus grand nombre de points aussi, il me semble. C'est complètement fou. Je pense que même on a égalé le nombre de points de la Juve en 2014-2015 qui avait fait le record de 102 points, c'est ça. Et à ce moment-ci, ils avaient...
Je crois qu'ils avaient un point de plus, je crois, de mémoire. Mais enfin, oui, mais c'est vraiment dans... Ils avaient marqué moins de buts, ils en avaient encaissé plus. Mais je crois qu'ils avaient un point de plus ou deux points de plus. Mais bon, enfin, voilà, c'est vraiment...
Voilà, mais c'est pour montrer vraiment les statistiques qui sont folles. Et donc, toi, Kevin, est-ce que c'est une Inter vraiment que tu n'as jamais vue et que même ton papa n'a jamais vue?
Écoute, bon déjà, Céd, on va couper parce que Julien, aujourd'hui, il a envie de justement faire que la fin de saison soit un petit peu plus en suspense. On a compris qu'il voulait du suspense, Julien.
Non, ma maman, il faut arrêter avec les histoires de chat noir. Il faut rester objectif.
Tu seras notre chat blond. Tu seras notre chat blond, c'est attention.
Mais non, bah après, c'est vrai que c'est pas que c'est surprenant, c'est que... Bah, c'est que ça fait du bien, parce que c'est vrai qu'on a toujours souvent été habitué à des extrêmes, à de l'instabilité ou de la non-continuité, on est d'accord là-dessus. Après, il y a eu des saisons où j'ai quand même eu cette sensation d'être intouchable. Moi, la saison du triplé était intouchable. À partir du moment, alors peut-être pas sur toute la saison, on va être objectif, parce qu'il y a eu les deux mois où, entre novembre et décembre, en Champions League, on était un peu borderline. Et donc, on réussit à se qualifier à la fin à Kiev. Mais à partir de janvier, il y a eu 6 mois où...
Avant la Rome est bien revenue quand même en championnat.
La Rome, ouais, mais même si elle était revenue...
Il y a eu ce fameux match à la Sampdoria, ou contre la Sampdoria, je ne sais plus si c'était là-bas ou pas.
Avec but de Platini.
Ouais. Je veux dire, la Sampdoria... a aidé aussi l'Inter à avoir le Scudetto, parce qu'au final,
mais
je pense qu'on a 82 points et la Rome en a 80 ou 79, je ne sais plus.
Mais là-dessus, je n'ai jamais eu, j'ai jamais été fébrile. Promis, c'est une sensation personnelle. J'étais vraiment très tranquille, que ce soit même avant Chelsea, avant, avant le Barça, avant Bayern Munich, avant cette année-là, c'était, t'avais une telle fluidité dans le club, dans l'équipe, t'avais des automatismes, t'avais une prise de conscience que c'est même pas la qualité des joueurs, parce que le point commun avec le passé et le présent, c'est, bah, dans le passé, il y avait des excellents joueurs à l'Inter, comme il y en a aujourd'hui. Il y avait peut-être même plus de qualité, fut une époque, sur d'un point de vue individuel, mais la tranquillité, elle est donnée par la conscience, c'est-à-dire la conciapé volet, l'auto-estime qu'on peut avoir. L'équipe, elle a une auto-estime de soi qui est propre à celle du champion. En restant objectif, on dirait celle que la Juve a eue pendant des années où elle se sentait intouchable parce que voilà, les autres étaient encore en phase de transition, de réélaboration. Là, aujourd'hui, c'est indéniable qu'on a switché, on a pris cette place-là et c'est nous qui avons cette prise de conscience qui est excellente. En plus de, évidemment, les automatismes sur le terrain, la condition physique, parce que physiquement, entre les blessures, qu'on n'en a pas beaucoup, donc tu as parlé de gestion des joueurs, mais surtout physiquement, la cadence qu'on tient, l'intensité qu'on met dans les matchs, en plus des idées de jeu, parce qu'il y a Inzaghi, on sait qu'il a toujours eu d'excellentes idées de jeu, c'est impressionnant, ça fait plaisir. Voilà, c'est pas surprenant, ça fait plaisir et ça fait du bien.
Alors, Kevin, tu parles de jeu. On a un petit peu parlé de Thuram, on l'avait fait dans le numéro précédent. Je voudrais faire un petit zoom sur Benjamin Pavard, l'autre Français qui s'est intégré de façon très, très rapide et qui est un petit peu le symbole, justement, de ce jeu. Parce que Benjamin Pavard, c'est un défenseur central. En tout cas, il est venu pour jouer défenseur central. Mais on le voit parfois latéral, on le voit parfois milieu de terrain, on le voit parfois dans la ligne de 4 attaquants, à se retrouver dans la surface adverse. Ce but contre la Juve où il prolonge le ballon par une sorte de ciseau là, un petit peu raté, mais il prolonge le ballon vers Thuram. Voilà, on a l'impression que c'était peut-être dans tout le puzzle qu'a mis en place Inzaghi depuis maintenant plus de 2 ans et demi qu'il est à l'Inter, c'était ce qui lui manquait, le poste comme ça de Blachetto droit, qui lui manque un petit peu, et que Pavard, c'est un petit peu le mix entre la rigueur défensive qu'avait Skriniar et ce qu'a proposé Darmian en fin de saison passée où il a porté beaucoup plus offensivement, et que Pavard, c'est un petit peu ce mix-là et qui permet aussi à l'Inter de devenir une équipe beaucoup plus difficile à lire, parce qu'elle attaque aussi bien à gauche qu'à droite, désormais, alors qu'on avait l'habitude d'avoir ce côté gauche Bastoni Di Marco qui tout passait carrément quasiment par eux avant.
Belle analyse. Il a coûté son prix quand même, hein, parce qu'on ne l'a pas eu comme ça, mais c'est vrai que c'est un joueur qui t'apporte énormément, que ce soit sur la relance, que ce soit sur les lectures défensives, l'expérience, et puis même sur le groupe, hein, parce que tu vois qu'il est déjà très bien intégré. Je pense que ce n'est pas un hasard d'ailleurs que... qu'il ait gagné autant, que ce soit au Bayern, que ce soit avec l'équipe de France. Hein, et je pense d'ailleurs qu'ils transmettent un peu ça, lui, Thuram, les Français en général. Parce que quand je vois l'équipe de France, le groupe, la famille qu'ils ont créée, tu as vraiment l'impression que c'est un groupe de collègues qui, au-delà de la qualité, on est d'accord, hein, ils ont une qualité au point de vue individuel, mais tu as vraiment l'impression, à travers leur communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit... sur n'importe quel support, que c'est une famille en fait. Et il y a une joie de vivre, il y a une symbiose entre les joueurs et ça se ressent ensuite sur le terrain, tu vois. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train d'être transmis. Il y a un peu plus de légèreté peut-être dans le vestiaire aussi, parce qu'on sait qu'en Italie, il y a beaucoup de pression, il y a énormément de stress, le foot, c'est la religion. Souvent, c'est des émotions négatives parce que les gens sont conditionnés par le résultat. C'est pas comme en Angleterre où, après le match, tu peux voir des supporters de deux équipes différentes qui boivent une bière. C'est difficile d'avoir ça ici en Italie. Alors que là, tu sens qu'ils ont peut-être apporté un peu de fraîcheur, un peu de joie de vivre, un peu de... Voilà, quelque chose de différent sans transgresser, par contre, sans en abandonner l'exigence italienne et toute sa rigueur. Mais ça fait du bien parce que ça, c'est un joli groupe.
Un petit mot rapide, très rapide. On a parlé de l'Atletico. Tu étais au match aller à Milan, Kevin. On en a parlé, selon toi. Je ne vais pas demander un pronostic parce qu'on a déjà, avec Giuliano, on a déjà été un petit peu au-delà. Donc, on va pas trop en ajouter. mais tu le vois comment ce match? Est-ce que pour toi, ce sera un petit peu le bis repetita de Porto la saison passée ou est-ce que ce sera différent? Parce qu'on le connaît, Simeone. On le connaît à l'Inter en tant que joueur. On le connaît surtout en tant qu'entraîneur depuis, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il est entraîneur de l'Atletico maintenant. Donc, voilà, on le connaît bien.
Écoute, ça va être chaud. Je ne sais pas pourquoi je me dis que c'est vraiment un match piège, un traquenard, parce que le résultat, quand tu te présentes là-bas, parce que le ressenti, c'est celui-là. C'est que ce match-là, tu peux le jouer 100 fois et je pense que tu vas le gagner 98 fois parce que tu es supérieur, même si c'est des styles de jeu qui se ressemblent, les deux entraîneurs. apporte une grande attention à la phase défensive. Il y a une vraie organisation, ça se voit. L'Inter a peut-être plus de maîtrise, de capacité de maîtrise dans la possession du ballon. Mais malgré ça, l'Atlético, au match aller, on n'oublie pas que la première mi-temps, par exemple, le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, c'est l'Atlético qui avait volé la possession à l'Inter. Ce sont deux équipes qui physiquement sont très bien entraînées. Mais l'Inter, avec les changements dans les dernières 20 minutes, elle a su faire la différence. D'ailleurs, l'Atlético n'est jamais réussi à dépasser presque la moitié de terrain dans les dernières 20 minutes. Mentalement, ce sont deux équipes qui bataillent, qui lâchent rien, à l'image de leur coach. Donc, si tu joues le match 100 fois, je pense que de nombreuses fois, tu vas le gagner. Mais on sait que la Champions League, mais on sait qu'à l'Atlético, mais on sait qu'avec Simeone, avec ces équipes-là, sur un match, un détail, une erreur, tu peux vite la payer cash et ça peut se transformer en un match qui devient une folie totale. Parce que si le vrai discours, c'est tant que tu restes 0-0, tu restes dans le match, un but et tu vas mentalement, tu les flingues. Mais si par malheur, tu viens à subir le premier but et en plus de ça, dans le premier quart d'heure, alors là, tu peux t'attendre même à un match extrêmement spectaculaire. Hein. Ça peut vite finir 3-2, 3-3, ces choses-là. Mais ça va dépendre voilà, du premier quart d'heure et du comportement des équipes et de ce qui va se passer.
C'est ce qu'Alexis avait aussi dit hein, dans notre épisode avec donc au match aller contre Atlético. C'est pas la même équipe, l'Atlético à domicile et à l'extérieur. Et je pense que ça va vraiment se ressentir là. Et c'est vrai que on va peut-être un peu se mordre les doigts de ne pas avoir mis plus de buts au match aller. Que moi, je redoute un peu, j'appréhende assez bien ce match retour.
Ça me fait penser un peu à Chelsea l'année du triplé. Ou Chelsea entraîné par Ancelotti, rien à voir avec le style des équipes, hein, rien à voir avec la qualité des joueurs ou quoi. Mais il y avait cette ambiance, cette façon de voir les choses où on se disait bon, bah, c'est une finale parce que si tu démontres que cette fois-ci tu as appris, parce que l'année d'avant on avait perdu contre Manchester 0-0, blablabla. Là on disait voilà, si tu passes Chelsea, ça va débloquer la compétition. Et d'ailleurs, bah, après le match aller, on avait gagné 2-1, c'était très tendu. Mais on s'était présenté à Stamford Bridge, on était relâché, on avait fait un super match, on avait gagné 1-0 si je me trompe pas avec but d'Eto'o sur un assist incroyable de Wesley Sneijder. Et par contre voilà, à la sortie de avant le match aller, il y avait cette même un peu atmosphère ici un peu tendue où voilà, même si tu étais conscient de tes forces, voilà, tu étais pas convaincu que ça pouvait que bien se passer. Après bien, ça dépend de nous hein.
Oui, ça dépend toujours de nous. De toute façon, on reste l'Inter et on n'est jamais sûr à 100%, comme on n'est pas sûr de gagner le Scudetto. Hein. Je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit. Allez, merci. Merci beaucoup, Kevin, d'être venu apporter ton analyse.
Merci à tous les deux. Merci toujours pour ces jolis moments qu'on passe ensemble, de partage, d'analyse, comme tu dis très bien. Et puis, on croise les doigts pour cette fin de saison. Et on espère toujours que le podcast plaira.
Tout à fait. Merci beaucoup aussi, Cédric, pour l'organisation, etc.
Ben merci, Kevin. Merci, Giuliano. Et puis, n'hésitez pas effectivement à nous écouter. On est sur toutes les plateformes à noter le podcast pour plus on a de bonnes notes et plus on est visible. Donc, voilà, n'hésitez pas pour nous aider à faire progresser ce podcast. Et puis, nous, ben, Giuliano, Kevin, on va se retrouver rapidement. Peut-être après le quart de finale. Ce serait après le huitième de finale. Oui. Oh, le lapsus. Après le huitième de finale.
On fait un point.
C'est ça.
Après, peut-être qu'on se retrouvera aussi physiquement cette année, on ne sait pas.
Ah bah déjà l'année dernière, on y est arrivé. Donc, on verra l'année prochaine.
Non, mais peut-être pour un événement spécial. C'est le mec qui force.
Oh là là, on se calme.
Moi, je suis à deux doigts de te bloquer sur WhatsApp et tout, là, Giuliano. Tu vas trop loin, là. Je t'enverrai plus beaucoup.
Magnifique.
C'est pour le running gag. Allez, salut à tous.
Allez, ciao. Salut, salut à tous. Ciao.
C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale, Cédric Canale et Kevin Coe. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et pour toutes les coulisses depuis Milan, suivez-les sur Twitter et Instagram. Alla prossima, fratelli nell'azzurri.